Salut, moi c'est Mélodie de M ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment, la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine. Contente aujourd'hui, je parle avec Alexandra de Naissance de Femme. C'est une, tu pourrais dire, ancienne sage-femme ou sage-femme d'autrefois?
De formation, mais qui n'est plus inscrite à l'Ordre des sages-femmes de France.
Puis, elle accompagne maintenant autrement. Je sais pas comment tu te définis. Est-ce que tu te définis comme accompagnante? C'est quoi le... Comment tu te présentes?
J'aime bien dire thérapeute, parce que finalement, c'est une approche thérapeutique, un accompagnement que je propose. Et j'ai réellement fait cette formation donc de thérapeute psychocorporelle pour les femmes. Donc voilà, c'est pratique. Mais souvent, okay. les gens me décrivent comme une accompagnante des femmes.
OK. Donc, comme d'habitude, c'est un, c'est un métier large et non défini par des limites. Mais... dis-moi, est-ce que tu te considères comme une personne spirituelle?
Oui, enfin pour moi tout est spirituel, donc...
OK, puis est-ce que dans ta vie, la spiritualité a toujours fait partie de ta vie ou c'est arrivé à un moment charnière où il y a eu un déclic?
Depuis l'enfance, je pense que j'ai toujours eu une conscience un peu différente, de vouloir me poser plein de questions existentielles, tout ça. Et j'avoue que quand j'ai fait mes études de médecine, je me suis coupée de ça pour être vraiment juste focus sur apprendre bêtement par cœur, réussir le concours avec beaucoup de pression. Et mon corps m'a ramenée à ça. Puisque je me suis bloqué le dos, donc j'ai découvert l'ostéopathie, ma mère faisait une formation de professeur de yoga à ce moment-là, j'ai vécu des expériences assez troublantes, touchantes, grâce au yoga, et donc ça m'a remis en fait dedans à me dire, ah ben en fait, je suis pas folle, il y a d'autres gens qui pensent comme moi, il y a même des livres, il y a même des théories dessus, il y a même des civilisations entières, ah voilà, c'était un peu ça quoi, ça m'a pas quitté après... Et puis appliqué au monde de la naissance, pareil, je me suis dit, ah oui, ok, je suis pas folle, il y a d'autres gens qui pensent comme moi. Ah waouh, hein. Le bébé est donc eh bien une personne, une âme qui est là et existant déjà durant la grossesse, quoi. Et comment...
Mais... Vas-y.
Oui, après j'ai envie de partir du coup sur la naissance, mais de dire comment on peut faire en sorte de leur offrir les conditions pour une naissance la plus douce et consciente possible, quoi. Déjà pour la femme, pour le couple, mais pour l'enfant, quoi.
Oui, qui est souvent oublié, hein, malgré tout, dans le processus. Dis-moi, je sais même pas t'as combien de bébés...
Pas d'enfant, encore.
Ah, OK, pas d'enfant. Donc, c'est intéressant d'avoir ta vision plus de bord de... Je m'en ai dit d'accompagnante, mais t'as accompagné beaucoup d'accouchements. Fait d'un volet plus extérieur au niveau de ta pratique, de ton expérience. Est-ce que tu sens que la grossesse et ou l'accouchement sont des expériences qui transforment au niveau spirituel la femme?
Ouais, c'est vraiment ce qui me... Ce qui me touche le plus, je pense, c'est-à-dire mon cheval de bataille, ce qui me motive et ce qui fait que je me lève le matin, c'est vraiment que les femmes, mais les hommes aussi, mais déjà les femmes, puissent retrouver leur pouvoir, leur souveraineté, dans le sens redevenir la reine de leur corps, que c'est leur territoire, et donc se réapproprier des connaissances de base sur la physiologie, sur la santé, sur la sexualité, l'enfantement, etc., et pouvoir poser ses limites, dire oui, dire non, et du coup ainsi choisir son mode de santé en général, et là appliqué à la naissance, choisir son lieu de naissance, qui accompagne, de quelle façon. On n'a pas le pouvoir sur le résultat, mais au moins sur les conditions, et de se dire même si ça devait être une césarienne programmée parce qu'il y a une grosse pathologie, tout ça, soit, mais comment tu peux être actrice à ce moment-là et faire que cette expérience-là, elle soit initiatique, parce qu'elle l'est de base, mais pouvoir la... Voilà, moi c'est ça qui me passionne, de voir comment la femme se transforme dans ce processus de grossesse, voire même de préconception. Et puis
Oui.
et puis après, quoi.
Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression, en tout cas, dans les femmes que j'accompagne, je le vois vraiment le cheminement qu'elles font, tu sais, la transformation de la femme. C'est comme si, on le dit souvent, mais tu sais, on est, nous aussi, en tant que maman, à la naissance de notre enfant, c'est comme on passe un nouveau cap. Puis, comme tu l'as dit, pour moi, l'accouchement, c'est vraiment une initiation au féminin. Tu sais, on arrive proche de la mort, mais d'un sens pas nécessairement physique, là. Je veux pas qu'on pense que l'accouchement est dangereux. Mais, tu sais, on va vraiment dans nos retranchements, on part au plus profond de nous, puis c'est comme si on allait puiser dans une source qu'on n'a généralement pas accès pour renaître en tant que femme. Puis effectivement, je pense que... puis je sais pas si t'es d'accord avec moi par rapport à ce que t'as vu, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on aborde l'accouchement de nos jours, tu sais, culturellement parlant. C'est pas un aspect qu'on valorise. Et moi, je trouve que c'est... Je pense, en fait, que c'est ce qui est de plus dur pour les femmes d'aujourd'hui. C'est comme si l'accouchement sera initiatique, peu importe la façon dont ça se déroule, mais la résultante au niveau psychologique et spirituel de la mère va différer en fonction de comment elle l'a vécu. Tu sais, parce que c'est comme... je trouve ça affreux que les femmes passent à travers un accouchement sans savoir cette intensité-là, pas au niveau des douleurs ou des contractions ou de l'événement en soi, mais l'intensité transformationnelle qui s'imposent, puis après ça, ils sont prises avec un manque ou un vide, ou, tu sais, je sais pas si toi, t'es...
Mais carrément, et encore, là, récemment, j'entendais deux femmes raconter leur enfantement et qui ont subi, qui n'étaient pas informées, donc pour faire un choix en conscience, c'était pas un choix conscient, elles ont suivi aveuglément l'avis de médecins sans savoir les alternatives et les risques, et a posteriori se sentent dépossédées de leur corps, qu'elles n'ont pas été accompagnées, soutenues, qu'elles n'ont pas pu aller au bout de leur volonté, par exemple, d'allaiter longtemps, de pouvoir enfanter sans péridurale et tout ça, par manque d'informations, de préparation. Attends, j'ai perdu mon fil. Parce que attends, on était sur l'initiation et sur
la transformation que ça occupe aux mères, puis en postnatal, la façon dont ils vivent.
Oui. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est je trouve qu'avec les naissances, alors j'ai envie de dire les naissances à la maison, mais ça peut être une naissance en tout cas vécue en conscience, sans intervention, sans médicalisation, sans, voilà, vraiment où la femme peut vraiment vivre tout le processus à 100%, pas perturbée. Il y a une confiance en elle qui est là, une confiance en son corps, une confiance en son bébé qui ne bougera plus, quoi. Et c'est là, et ça se voit vraiment en postpartum, avec beaucoup moins de dépression, une confiance dans le... Bah, je sais peut-être pas m'occuper de ce bébé, parce que c'est la première fois que j'ai un bébé, mais j'ai envie de tester ça, comme ça, je le sens bien comme ça, et puis j'essaye, ça marche pas, ok, je vais faire comme ça, ah bah voilà, j'ai trouvé la solution, plutôt que de s'en remettre une fois encore à quelqu'un d'extérieur qui, soi-disant, saurait mieux, alors que non, personne ne peut mieux savoir que toi pour ton corps, que toi pour ton bébé. Et voilà, il y a un effet de revenir à l'intérieur et de refaire confiance à son juge intérieur, tu vois, à son intuition. Et je trouve ça hyper précieux pour après la maternité, pour les choix à faire dans la santé, dans la scolarité, dans tout, quoi. Dans le fait de durer dans l'allaitement alors que tout le monde te dit « Ah non, mais t'allaites encore, ah tu dors encore avec ton bébé, blablabli, blablabla », enfin tous les conseils qu'il peut y avoir à l'extérieur. Il y a un ancrage qui est là. Et je trouve ça tellement triste que des femmes n'aient pas accès, comme tu disais, à cette intensité, à cette puissance-là dans la naissance. Alors que ça peut être tellement bénéfique pour plus tard, en fait. Autant, on peut dire que des hommes vont avoir une initiation par la guerre, par des rituels chamaniques, par des choses. Bah, nous, une des possibles initiations, c'est l'enfantement. Par toutes ces transformations, ça nous amène ce contact avec la vie, avec la mort. Mais comme tu dis, c'est la mort psychique de l'ancienne femme qu'on était pour renaître mère. Et tout ce que ça vient faire bouger, forcément, dans la relation à la mère, à la lignée, etc. Dans le couple, dans la sexualité, dans le rapport à son corps. Transcender peut-être le vécu traumatique qu'il a pu avoir dans le bassin, dans le périnée. Se réapproprier son corps. Enfin voilà, je trouve ça, c'est une occasion en tout cas d'aller contacter tout ça et d'aller en tirer une certaine puissance et conscience qui sera bénéfique pour après.
Oui,
c'est magique.
Tu sais, j'aime ça que tu dises ça parce que j'ai une méditation que j'ai faite pour les mamans que j'accompagne. Une méditation plus ou moins, peut-être plus une visualisation, je devrais dire, où, tu sais, je leur propose de visualiser quand elles sont déjà mères avec leur bébé dans les bras et tout le temps quelqu'un qui redit, tu sais, par rapport à son instinct. Et moi je l'allaite comme ça, moi je le positionne comme ça parce que je pense qu'il est bien. Et tout le temps quelqu'un en train de redire non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. Comment tu te sens en tant que maman, mais aussi en tant que femme, tu sais, de pas être en confiance avec ce que toi tu ressens, puis d'être incapable de mettre tes limites par rapport à non, c'est mon enfant, puis moi c'est comme ça que je fonctionne. C'est quelque chose que tu peux dessiner au fil de ta grossesse. Moi, c'est ce que j'invite les femmes à faire. La grossesse, c'est un moment où si tu embrasses ce chemin-là de te découvrir, j'ai aucun problème à dire que la grossesse peut être vraiment un gros tremplin de développement personnel, de te comprendre, de t'apprivoiser, puis de dire comme ben c'est le moment de mettre tes limites, puis c'est le moment de justement, comme tu dis, retourner à ton instinct et à ton intuition, parce que quand ton bébé va être là, si tu veux te sentir plus confiante, puis il faut que tu, premièrement, sois capable de d'écouter cette petite voix-là, mais aussi que tu prennes confiance en toi, tu sais, au lieu de te fier uniquement sur l'extérieur. Puis c'est ce qu'on nous valorise, tu sais, on nous dit tout le monde va t'aider, toi t'es pas vraiment capable de rien faire, mais tu sais, t'inquiète, tout le monde va te gérer, tu sais.
C'est ça, mais c'est fou parce qu'en fait on est formaté depuis l'enfance à faire confiance à l'autorité extérieure et à éteindre notre propre jugement, consentement, envie, besoin par les parents qui sont censés avoir raison et qui des fois considèrent pas l'enfant dans son besoin, l'école, l'autorité, le gouvernement, enfin voilà, après c'est tout un débat, mais je trouve qu'on est conditionné à ça. Et donc, bah forcément, le médecin, la sage-femme, enfin, le professionnel de santé redevient cette autorité-là. Et le pire, c'est que dans les études de médecine, eh ben, on est formé à être comme ça, à incarner cette posture-là. Que moi, j'ai déconstruit très rapidement parce que je ne voulais pas rentrer dans ce moule-là de je sais mieux que l'autre. Ben non, j'en sais rien. J'ai des informations que peut-être la personne n'a pas, que je vais lui transmettre, mais la personne, c'est elle qui vit dans son corps. Je peux pas savoir mieux qu'elle comment elle vit l'intensité des contractions, par exemple. Ça me semble complètement dingue. Je peux pas savoir dans quelle position elle serait bien pour accoucher. C'est elle qui va sentir. Et je me faisais engueuler, étudiante sage-femme, quand on me disait « Mais tu t'as laissé le choix, la femme !» Ben oui. Genre, ça me semble logique, non?
Ok, donc c'est super intéressant que tu dises ça. Il vous l'expliquait comme ça, mais en fait, ça, je suis contente que tu le dises parce que ça confirme ce qu'on voit, en fait, ce qu'on expérience avec le personnel médical. Ils veulent vraiment, c'est ça, nous encadrer, tu sais, comme des enfants, dans le fond, là.
Ouais. Et il y a une déconnexion du corps qu'on a assez tôt dans l'enfance, c'est une déconnexion de notre intuition, de notre créativité. Et l'autre jour, je me faisais la réflexion par rapport à l'observation du cycle, par exemple, ou au flux instinctif libre où on laisse le sang s'écouler sans cup, sans tampon et tout ça, et qu'on peut être à l'écoute comme on est à l'écoute de notre urine, de savoir quand aller aux toilettes. Et je me dis, on a beau avoir eu, pour la plupart, les infos au collège ou au lycée sur la physiologie, sur le cycle, ou encore plus dans des études de santé. Et pour autant, il n'y a pas ce lien direct qui se crée dans le cerveau de dire « Ah, mais je peux me l'appliquer !» Du coup, comme je peux savoir les phases de fertilité, tout ça, je peux utiliser ça comme contraception. Et c'est naturel, je vais juste observer mon cycle, j'ai pas besoin de pilule. Et puis voilà, s'il y a besoin d'une pilule à un moment donné, d'un stérilet, si c'est la meilleure solution à ce moment-là, c'est parfait. Mais je peux aussi ne pas utiliser ça. Et à aucun moment, on nous propose les différentes options. Et on nous ramène juste à la connaissance de base du corps, à l'intuition et à sentir. Tu vois, et ça, je trouve ça fou. Même en ayant fait les études, ça demande un chemin de tout remettre en question pour se dire, attends, moi, je vois pas la contraception comme ça. Je suis sûre qu'on peut faire autrement. Attends, moi, la naissance, je suis convaincue que ça peut être comme ça, là, chez toi. Sans perfusion, sans gants, sans quelqu'un qui te dit quoi faire, comment faire. Mais c'est pas proposé comme ça. Ça demande vraiment un chemin intérieur et d'aller se déconditionner de tellement de choses. Après, moi, ça m'est venu où je voyais la naissance comme ça. Et donc, ce que j'ai observé à l'hôpital et durant mes études ne me paraissait pas normal. Donc, du coup, j'avais mon intuition à la base qui me disait non, ça sonne faux, il y a un truc.
Mais combien de temps t'as été sage-femme officiellement?
5 ans, 6 ans.
Ok. Ouais. Pourquoi t'as arrêté? C'est-tu justement pour cette raison-là, du fait que certaines pratiques sonnaient faux pour toi?
Oui. En fait, je me suis installée en libéral avec mon propre cabinet en ville dès mon diplôme pour pouvoir être libre de faire comme je voulais, tu vois, accueillir en étant pieds nus, sans blouse blanche, dire on s'installe dans un salon, on prend une tisane, on discute et voilà, quel est votre besoin et on voit. Et je suis pas là pour donner des connaissances ou mieux savoir ou juste prescrire, ça m'intéressait pas de faire ça. Et je voulais vraiment rencontrer les gens, les couples, et pas que ce soit des numéros et comme ce que j'avais pu voir à l'hôpital. Je voulais accompagner les naissances à la maison. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, d'être accompagnée par une autre collègue sage-femme au début pour... parce que c'est pas du tout ce que j'ai appris à l'école. Donc, fallait quand même... j'avais besoin de me rassurer un peu. Et puis après, de formation en formation, j'ai été de plus en plus loin dans mon cheminement avec de vieilles sages-femmes, des sages-femmes d'autres pays ou des personnes pas sages-femmes, justement. Ensuite, ça a été le de plus en plus lourd de sentir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'en France, c'est dans plein de pays aussi, mais... Il y a une hypocrisie du système où en fait les sages-femmes doivent être assurées pour les actes médicaux qu'elles font. Et comme en France on considère que l'accouchement est un acte médical, il faut être assuré pour ça. Et il n'y a pas d'assurance pour ça. Et donc, les sages-femmes sont hors la loi. Donc, bon, moi, j'étais alignée avec mes valeurs, donc ça ne me dérangeait pas d'être là-dedans. Mais au bout d'un moment, ça commençait à être lourd et de devoir comme rendre des comptes à l'hôpital dès qu'il y avait un accouchement ou... Voilà, ça a été trop. Et puis, la politique de santé en France ne correspondait pas du tout à mes valeurs de libre choix, d'autonomie, autant pour les professionnels de santé que ce que eux devaient faire aux femmes, et notamment aux femmes enceintes. Donc, c'est, voilà, j'ai senti vraiment en moi, quand je me suis dit mille différentes options qui se présentaient devant, je me suis dit, ben, si je quittais l'ordre des sages-femmes, ça ferait quoi? Et là, oh, grande ouverture dans mon cœur, la lumière, la légèreté. Je me suis dit, ah ouais, ok. Je pensais qu'à un moment donné, mais peut-être pas aussitôt. Et en fait, si, parce que je me sentais contrainte dans l'ordre. Après, il y a aussi des avantages, je vois, à y être. Mais c'est, bon, la vie est un jeu. Et dans quel cadre j'ai envie de jouer?
Oui. Voilà.
Et là, en ce moment, j'ai envie de jouer en dehors du cadre de l'ordre des sages-femmes, d'être dans mon propre cadre que je définis à côté. Parce que c'est aussi frustrant de devoir, par exemple, dire non à des couples pour ne pas les accompagner ou de devoir réaliser un transfert à l'hôpital en cours d'accouchement parce qu'il y avait une peur derrière. Que du protocole, peur de si je fais un transfert maintenant, que le couple arrive et soit mal accueilli, que moi ça me retombe dessus, alors que je sais bien que ça reste physiologique. Mais si jamais il y a le contact avec l'hôpital qui ne comprend pas la démarche de ce couple, qui ne comprend pas ma démarche, ben ça va me retomber dessus, parce qu'il n'y a pas d'assurance, parce que c'est pas soutenu. Et voilà. Et faire un choix en fonction de ça, du côté légal, on va dire, c'est horrible.
Oui.
Et c'est pas du tout respectueux de la physiologie, en fait. Donc, c'est un dilemme intérieur qui est très dur.
Ben, et je te comprends à 100% parce que moi, en tant que doula, j'accompagne des femmes qui veulent faire des enfantements libres. Et c'est pas illégal, mais c'est pas bien perçu. Et aussi, tu sais, ça dépend. Il y en a qui le font bien, puis il y en a d'autres que... la pratique est biaisée, mais tu sais, moi, j'accompagne les femmes qui, premièrement, le feraient sans moi. Tu sais, ils ne comptent pas sur moi, ils comprennent bien mon rôle du type « je t'accompagne » au même titre que s'il y avait une sage-femme ou un médecin avec nous. Je suis pas formée pour ça, tu dois pas compter sur moi pour la sécurité, tu sais, de ton enfant ou de toi-même. Moi, je suis vraiment là pour tenir l'espace, pour te dire que t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Puis de donner de l'amour, tu sais. Mais je pense qu'en tant que doula, la règle d'or, c'est d'accompagner les mamans, peu importe leur choix. Et je comprends pas pourquoi les femmes qui font le choix d'un enfantement libre ne pourraient pas avoir une doula avec eux. Donc, moi, c'est pour ça que je fais cette pratique-là. Mais effectivement, à ton point, c'est dangereux, en parenthèse, pour nous, les accompagnantes, parce que c'est pas bien compris, c'est pas bien perçu. Est-ce que t'as fait quelque chose d'illégal? Est-ce que tu les as mis en danger? Puis nous, on est là en train de dire, non, mais c'est pas moi, c'est pas mon choix, c'est pas mon accouchement, c'est pas mon corps. Mais les différences de perception sont tellement intenses que ça devient conflictuel.
En fait, ça nous paraît tellement, enfin nous, ça paraît tellement étrange à la société que le couple puisse prendre sa propre responsabilité, qu'il faut forcément trouver un responsable, un coupable. Donc, ce serait la doula qui serait là. Comme on dit, des fois, quand il y a un accouchement hyper rapide, les pompiers arrivent après. Voilà, le père, il a accouché sa femme. Mais il a accouché personne.
Les pompiers l'ont trouvé.
Voilà.
Les pompiers ont sauvé la femme parce que
tu vois, c'est juste notre paradigme de la naissance qui va pas, quoi. Et ça fait partie, ça aussi, je te rejoins tout à fait sur ma légèreté, la légèreté que j'ai sentie en étant plus avec le titre de sage-femme, c'est que je n'ai plus à porter cette responsabilité de la naissance. J'ai ma responsabilité de ma présence ou de mon accompagnement, de ça à 100%, c'est sûr, j'ai ma part. Mais le couple peut vraiment prendre sa part. Mmh. Et même si c'est à fond ce que je faisais quand j'étais dans l'ordre, il y a un truc de base inconsciemment qui se crée, ou en tout cas pour les autres, si c'est pas pour le couple, c'est pour le monde extérieur, que c'est la personne qui a la blouse blanche, entre guillemets, qui a la responsabilité. Et qui a le fin mot de l'histoire, quoi. Même notre rapport à la mort, c'est ça, il n'est pas clair non plus. Comme on voit dans d'autres cultures où c'est, ok, bon, bah, si Dieu, peu importe les mots, Dieu, l'univers, ben, a choisi ça, c'est le choix peut-être de cette âme-là aussi. Et on n'accepte tellement pas ça qu'il faut forcément trouver un coupable. Le risque zéro, voilà. On doit forcément trouver la solution. Alors que non, la mort fait partie de la vie aussi, en fait. Mais voilà, c'est un chemin.
Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, je choisis vraiment bien les mamans que j'accompagne dans cette aventure-là. Mais aussi, c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec eux, la mort au travers de la naissance. Parce que, justement, moi, mon objectif en tant qu'accompagnante au travers de la grossesse et de l'accouchement, c'est de redonner pleinement l'autonomie à la maman. Donc, à travers ça, l'objectif, c'est pas de dire « Ok, tu veux pas compter sur des médecins ou des sages-femmes, peu importe ta raison, mais compte sur moi. » Tu sais, ça serait vraiment horrible, tu sais. L'objectif, c'est que tu te sentes capable à 100% de le faire. Et je pense que pour être capable de réussir un enfantement libre, et idéalement dans tous les enfantements, pour vraiment retrouver un peu cette essence-là de la naissance, c'est d'être capable d'accepter plus la mort. T'sais, on a tellement peur. On a peur de la douleur. Dès qu'il y a de la douleur, il faut donner quelque chose parce qu'on voudrait donc pas ressentir quelque chose. Puis, dès qu'on parle de la mort, c'est la plus grande peur. On a tous peur de la mort, mais il faut... Moi, je pense que c'est une question ou un sujet qu'on doit aborder en préparation à la naissance. Ça fait partie de...
Mais je te rejoins. J'ai tellement de choses à dire sur tout ce que tu as dit. C'est. Ah, c'est tellement ça. Et ça amène en fait à un lâcher-prise. Au fait qu'on n'a pas le contrôle sur la vie, la mort. On fait de notre mieux avec les moyens qu'on a, selon notre époque, selon tout ça. Et puis. Pour l'enfantement en lui-même, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe non plus, sur quelle intensité on va vivre, quelle initiation ça va être, comment ça va se dérouler, la rapidité. Voilà, on a juste à se laisser traverser par ce qui est là, et c'est déjà de pouvoir parler de ces notions-là durant la grossesse, mais c'est voilà, je laisse faire, et mon corps, c'est un canal, voilà. Je veux dire plein de choses, mais du coup, je j'ai mes idées qui partent dans tous les sens.
Mais moi, je veux rebondir sur le fait que, tu sais, souvent, en ce moment, c'est bien trendy, c'est bien tendance, l'accouchement naturel, l'accouchement physio. Mais deep down, tu sais, quand on regarde profondément, si on veut vraiment un accouchement naturel, il faut retourner à la nature, justement. Tu sais, c'est quelque chose que n'étant plus vraiment comme les sociétés tribales peuvent l'être, en contact direct avec la nature et les animaux, on a moins conscience de ce cycle-là, de la vie, de la mort, puis que la mort fait partie du cycle. C'est une des phases. Donc, c'est quelque chose, tu sais, que je pense qu'il faut réapprivoiser.
Oui, et c'est ça que voilà, je voulais te dire, merci, ça me rappelle mon idée. Vu qu'il y a ce tabou autour de la mort, il y en a un aussi autour de la naissance. Et ces deux étapes d'extrémité de vie se font dans un espace qui est clos. On arrive et puis on revient avec un bébé. Ou alors on y va et puis on y meurt et voilà. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ce passage. Et donc forcément, ça entretient le tabou. Si c'est inconnu, ça fait peur. Alors que si on a vu les grands-parents s'endormir paisiblement à la maison, dans leur voilà, et puis mourir de cette façon-là, entourés, accompagnés, et faire face. Alors oui, la douleur, elle est là pareil. Ça va pas être moins douloureux si la personne est à l'hôpital ou à la maison. Mais au contraire, là, on voit le processus et le deuil est peut-être même plus facile. Et pour la naissance, c'est pareil. Intégrer tout le processus de la naissance, tous les changements que ça sacré dans le corps, dans le psychisme, c'est à mon sens beaucoup plus facile à la maison quand on n'a pas à changer d'environnement, qu'on n'est pas perturbé. Ça coule de source en fait. Et en fait, comme on ne voit pas les naissances, alors heureusement maintenant il y a des réseaux sociaux, on a des transmissions en ligne, il y a des livres, des podcasts, on a, en tout cas, si on cherche, on a de quoi trouver l'info pour se conditionner, comme tu disais, à avoir des naissances naturelles, des naissances d'animaux, de dire on n'est rien d'autre que des mammifères à ce moment-là. Justement, on doit couper notre néocortex qui réfléchit, qui analyse, de voilà, d'humain, et revenir à la base, au cerveau archaïque, qui est enfance, et puis de le voir, et de le revoir, et de le revoir, ça permet, je trouve, de se dire, ah ouais, mais c'est juste ça, en fait, la nature a tout prévu, comme le brin d'herbe qui pousse, la fleur qui pousse, elle ne se questionne pas sur comment elle pousse. Et ben là, le bébé, il grossit naturellement dans le ventre. Alors, on peut faire appel à la PMA, et ça, il y a toujours des exceptions. Mais en tout cas, a priori, le corps est fait pour fonctionner, et fonctionner, il fonctionne pour l'enfantement pareil, quoi, comme il fonctionne pour l'allaitement. Et a priori, il n'y a pas de question à se poser. Et donc, moi, je trouve ça dingue d'en être aujourd'hui à un stade où on a tellement trafiqué, on va dire, notre vision de la naissance, qu'on en vient à devoir se préparer à enfanter pour se déconditionner sur les croyances, se réapproprier le cerveau de la physiologie. Alors que si on avait vu ça tout le temps, bah, ça ne serait même pas une question, en fait. On se dit, ah ouais, bah, c'est mon tour, youhou, je vais accoucher, et puis voilà.
Mais c'est fou parce que moi, je passe mes journées à dire, moi là, j'ai un terme beaucoup trop sévère que je ne vais pas dire. OK. J'arrête pas de mettre de l'avant que les cours prénataux, il faut revoir ça parce que c'est comme si on essayait d'apprendre à une femme comment accoucher. Mais l'objectif, c'est pas de t'apprendre à accoucher. Tu sais comment accoucher, ton corps sait. Moi, ma seule job, c'est de déconstruire justement tout ce que culturellement et avec la société, on nous a transmis comme peur, comme croyances qui sont soit non fondées, soit qui vont bloquer tes processus physiologiques de mammifère normal. Tu sais, c'est super important pour moi de faire la distinction. Et justement, je lisais la semaine passée que sur l'histoire de l'obstétrique au Québec, qui mentionnait que les cours prénataux à la base ont été implantés par le gouvernement pour promouvoir, en fait, la façon de faire des médecins, pour que les femmes et les parents soient informés de comment ça va se passer à l'hôpital. Et donc, c'est pas pour dire, genre, voici tes choix et choisis le chemin que tu veux adopter. C'est, voici comment ça va se passer. You better be ready. Genre, voilà, tu sais, c'est un moyen de, un peu de propagande de, ben, nous, on a décidé de faire comme ça et t'as pas le choix d'y aller comme ça, ma belle.
C'est exactement ce que je voyais à l'hôpital ou même des fois avec les sages-femmes libérales aussi. Bon, bah, je vous informe, voilà, ça c'est la. Vous arrivez, ça se passe comme ça, on vous allonge, voilà, à tel moment vous pouvez prendre la péridurale, on ne questionne pas sur quel est l'intérêt, quelles sont les contraintes, quels sont les effets de cette péri, quelles sont les autres façons d'enfanter. Et puis bon, voilà, il peut y avoir l'épisiotomie, il peut y avoir ça. Oui, mais toi là-dedans, qu'est-ce que tu veux et comment on peut créer les conditions? Et je trouve ça fou même que. On doit prêter tant d'attention à recréer les conditions pour que la physiologie puisse normalement se dérouler, que nos hormones puissent se sécréter, que notre cerveau puisse lâcher prise, parce que notre société, en fait, c'est très très large, cette question. Notre société n'est pas adaptée à nos réels besoins profonds, dans notre façon de manger, ouais. Dans le stress, dans tout. Alors, on a beau le savoir un peu consciemment, et puis c'est de modifier certaines choses, il y a quand même des bases, même d'être tout le temps sur notre téléphone, voilà. C'est du stress pour le système nerveux. Et en fait, l'enfantement, je trouve, la grossesse ramène à se ralentir et à reprendre conscience de, OK, qu'est-ce qui va pas? Et souvent, on va se dire, ah oui, bah, pour mon bébé, je veux des couches bio, ou du coup, je vais peut-être faire des couches lavables, c'est mieux. Et puis, peut-être que moi, je veux vraiment qu'il mange sainement. Mais est-ce que ça, on se l'applique à nous déjà? Tu vois, c'est, je sais pas, là, de parler avec toi, je me dis, c'est tellement large, c'est un mode de vie en général, et l'enfantement libre, l'enfantement à la maison s'inscrit là-dedans. Mais ça devrait
Oui.
être la base. Et puis, ouais, sans culpabiliser les femmes qui enfantent à l'hôpital, le but aujourd'hui, c'est de se sentir à quel endroit on se sent le plus en sécurité. Parce que c'est la sécurité du système nerveux qui est le plus important. Si c'est pour faire l'enfantement à la maison, parce qu'on se dit que c'est mieux, mais qu'en fait, on n'est pas du tout rassuré, évidemment que ça ne se fera pas à la maison et que ça ne marchera pas. Mais en tout cas, pour celles qui veulent le faire de cette façon-là, qui veulent questionner, qui veulent aller se rapprocher au plus du côté mammifère, ben, qu'elles aient la possibilité et qu'elles trouvent les informations pour se déconditionner, pour reprendre leur pouvoir, et même reprendre son pouvoir, comme je disais tout à l'heure, à la maternité aussi, quoi. Mais...
Tu sais, c'est pas une question de lieu. Je pense que le cri du cœur, en tout cas, que je pense qu'on a toutes les deux, c'est de dire, t'as un choix, puis laisse-moi t'expliquer de où ça part. Puis après ça, parce que on prône en ce moment, là, c'est bien pro-choix, là, choix éclairé, ci, puis ça, mais c'est pas vraiment ça qu'on voit. Quand vraiment on est en dehors du système, qu'on fait nos propres recherches, puis que on peut vraiment dire l'entièreté de l'éventail des choix, tu te rends compte que tu as peut-être eu 20% de l'information, mais qu'au final, si, puis ça revient aussi un peu à ce que je dis souvent, ce que les femmes, pour les garder, on les infantilise, tu sais, au travers de ce processus de grossesse et d'accouchement. Et donc, la femme ne retrouvera jamais son autonomie ou son plein pouvoir parce qu'elle est tout le temps gardée dans le rôle de la petite fille qu'on contient par la main. Et souvent, on a peur de dire des choses aux femmes enceintes. Tu sais, et on a peur de leur dire, ben, garde, c'est ça les risques, puis fais ton choix. Puis, tu sais, ça, c'est ce que je dis souvent avec mes mamans que j'accompagne. Je dis, moi, je suis pas ici pour te cacher des informations parce que ça va faire peur, ça va faire mal à ton petit cœur ou justement j'ai fait un accompagnement ma première rencontre dans l'accompagnement semi-privé que je fais le cercle natal. Je parle de l'impact du stress sur durant la grossesse, l'impact à long terme sur l'enfant et j'ai des mamans que c'est pas leur première grossesse puis tu sais ils m'ont dit Mélo, j'ai pleuré pendant 3 heures après. Tu sais, parce que, Colline, avoir su ça avant, puis en même temps, je suis tellement heureuse de le savoir pour mon deuxième. Tu sais, puis c'est le genre d'info que tu ne mentionnes pas à une mère parce que tu dis, ah, tu sais, je veux pas la culpabiliser. Non! Arrêtons! On veut leur donner une puissance, elles sont prêtes, elles doivent être prêtes à entendre ce qu'il y a à dire. Tu sais, c'est pas des enfants. Bref, je me
Mais
suis laissée
oui,
emporter.
mais non, mais c'est carrément ça. Et ce que je pouvais voir à l'hôpital, c'est un peu bon, ben juste soyez sage et on s'occupe de tout. On va vous accoucher du moment que vous respectez bien notre façon de faire. Bon, ben voilà, ça va bien se passer. Dès qu'une femme, je me rappelle, c'était horrible, dans une maternité de niveau 3, donc là, il gère le plus gros niveau de pathologie, de prématurité, tout ça. Le plus haut niveau, voilà, de médicalisation. Il y avait une salle nature. Et dès qu'il y avait une femme qui avait un projet d'enfantement naturel, tout le monde disait, oh là là, oh non, oh ben moi je préfère gérer la grosse pathologie là en salle 2. Et je me disais, mais pourquoi? Moi j'ai trop envie d'accompagner cette femme dans ce choix, c'est merveilleux. Et puis du coup, si elle est informée, autonome et tout ça, bah elle a besoin de rien au final. Donc c'est encore moins de travail si vous êtes à gérer la charge de travail. Mais en fait, elle peut aussi demander une présence et un accompagnement voilà, les sages-femmes n'étaient pas disponibles avec trop de femmes en même temps qui enfantent. C'était pas possible pour elles de se détacher et d'avoir la patience et le temps. Et puis, elles ne connaissaient pas la femme, elles ne connaissaient pas le projet en soi. Donc, à part le bout de papier de projet de naissance, voilà. Et je trouvais ça fou qu'elles en arrivaient à fuir la salle physiologique. Tu vois, c'est même jusque-là, je me dis, ça tourne pas rond.
Ben, ouais, je l'entends souvent, tu sais, ça, puis je le vois, je l'ai vécu, tu sais, il y a comme une résistance quand la femme arrive avec un choix différent que ce qui est valorisé dans le milieu hospitalier, et je me pose la question, justement, pourquoi? tu sais, pourquoi ne pas respecter? Est-ce que c'est parce que, tu sais, je me dis que ayant étudié longtemps sur une façon de faire particulière, ça vient brimer ou ça vient remettre en question nos croyances, puis ça c'est sûr que quand on est rempli de conviction, ça peut devenir une confrontation à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça que tu as perçu?
Ben, il y a le fait qu'il y a des sages-femmes qui aimeraient bien accompagner, mais il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de sages-femmes, il y a trop de travail, pas assez de ouais. personnel, pas assez de moyens, vraiment, voilà. Il y a ça d'une part, et puis il y a des sages-femmes qui ne sont pas du tout informées ou qui ne croient pas en la capacité de la femme à enfanter naturellement. Tu vois, je pense que c'est ça le fond. C'est qu'il y a tellement de peurs qui sont transmises. Moi, je me rappelle qu'on nous disait « voyez la femme comme un facteur de risque ». Tu vois, elle a risque d'hémorragie, elle a risque de ça. Tant que c'est pas arrivé, ça peut arriver. Jusqu'à preuve du contraire. C'est un peu ça, tu vois. Alors qu'on part pas du principe que de base, elle s'est enfantée et que dans de très rares cas, il peut y avoir des complications.
Ouais, ben, je vais dire comme Michel. Oui, tu sais, Michel, il dit tout dépend de la question de base. Tu sais, souvent en médecine, la question de base, c'est pourquoi c'est aussi difficile pour la femme d'enfanter? Puis quels sont les risques? Puis les réponses vont être en fonction de la question de base. Si on passe sur la question pourquoi les femmes, encore aujourd'hui, sont capables d'accoucher facilement et rapidement dans certains cas, les réponses vont en différer. C'est une question de vision, une question de croyance et aussi... Détrompe-moi, de ce que j'ai vu, une question d'expérience. Moi, j'ai eu affaire avec beaucoup de professionnels de la santé qui ont pratiquement jamais vu des accouchements naturels. Et donc, par rapport à mon expérience à moi, qui était pratiquement que des accouchements naturels, il y avait vraiment un clash au niveau de l'expérience, là.
Ben, c'est ça. En fait, durant les études, on n'apprend pas du tout ce que c'est un enfantement naturel dans l'autonomie.
Non.
On apprend ce que c'est un accouchement en position gynéco sur le dos avec une péri, et on se dit, bon, moi, sans péri, c'est à peu près pareil, tu vois. On va quand même contrôler la femme.
Ouais. En tant que sage-femme, vous n'apprenez pas un accouchement naturel.
Non, un vrai. Quelles sont les conditions nécessaires pour que la femme produise ses hormones, qu'il y a l'ocytocine, qu'il y a les endorphines? Tout ça, on n'apprend pas concrètement. On a vaguement l'idée, on a appris, mais on n'a pas mis en application. On ne se dit pas, donc, dans une salle de maternité, concrètement, on va éteindre la lumière, on va chuchoter, on va faire ça. On ne dit pas ça, puisque ce n'est pas ce qui se passe. Les lumières sont allumées, on ouvre la porte en grand, on parle fort, on questionne la femme, on lui propose des positions au lieu de la laisser faire. Voilà. Donc, tu vois, on a l'opposé de ça. Et c'est des peurs. Et je me rappelle une fois avoir fait quand j'étais encore sage-femme, j'avais fait un transfert à l'hôpital et puis... Je me dis, bah, tout va bien, maman, bébé vont bien, c'est juste que là, ça commence à être long, vraiment, et la femme ne peut plus, elle s'épuise. Bébé, là, le col est à dilatation complète, le bébé s'engage dans le bassin, mais ça devient vraiment long. Et puis, pour elle, c'est pour cette gynéco-là, qui était de la vieille école, on va dire, pour elle, c'était inconcevable d'avoir déjà souhaité un enfantement à la maison, et de se dire, mais là, pour elle, le bébé allait mourir, quoi. Tu vois, fallait intervenir, limite, fallait faire une césarienne d'office, alors qu'on disait, mais tout va bien. Enfin, bébé va bien, maman va bien, on vient en prévention. Et parce que la mère est épuisée, mais on... voilà, pour une surveillance, mais c'est tout. Et en fait, malheureusement, il y a eu une surintervention pour cette femme qu'elle a très mal vécue derrière, etc. Ils n'ont même pas attendu que le père arrive pour que bébé naisse. Enfin, voilà, bon, toutes les interventions qu'il y a eu derrière, bref. Et tu vois, et je me dis, mais ça, c'est tellement illogique. Et en fait, j'étais tellement ancrée face à elle à me dire, mais je n'ai rien à me reprocher, en fait. J'ai transféré à un bon moment, justement, avant qu'il y ait une éventuelle pathologie qui se développe, et tout va bien. Et en fait, elle me disait, mais ce que vous faites, c'est l'Afrique. Mais vous ne vous rendez pas compte des risques. Et tu vois, je me dis, mais est-ce qu'elle a vécu un stage en Afrique qui l'a traumatisée? Est-ce que, comment ça, c'est l'Afrique? Ça veut dire quoi? Enfin, c'est... Et je me dis, voilà. En fait, comme tu dis, un gynéco, on peut pas lui demander d'être soutenant de la physiologie parce qu'en général, il la voit pas. il a pu avoir des accouchements avec péridurale qui se passent bien, qui sont eutossiques, maman et bébé vont bien, mais c'est pas naturel, ça peut être aussi mal vécu. Et eux, on les appelle quand rien ne va plus. On les appelle quand vraiment il y a besoin pour bébé, il y a besoin pour maman, et on compte sur eux, c'est eux qui doivent sauver la vie de la maman et du bébé. Donc, je peux aussi comprendre que dans leur vision, eux, ils voient que des scénarios catastrophes. Et c'est compliqué d'envisager que bah, une femme peut enfanter à quatre pattes sur son canapé, voilà, sans personne.
Mais là, j'ai une question, parce que là, moi, je comprends plus rien. Au Québec, dans le fond, les sages-femmes, comment ça fonctionne, c'est que ils sont réglementés par le gouvernement, OK? On n'a pas le droit d'avoir des sages-femmes libérales au Québec, c'est illégal, OK? Et elles doivent respecter un certain cadre, donc avec des protocoles établis et tout ça. Mais il reste qu'à la base, dans leurs études, leur vision reste une vision qui est une approche beaucoup plus physiologique, beaucoup plus axée sur le physique et l'émotionnel. Une vision plus physiologique que technico-médicale, OK? Fait qu'ils ont cette vision-là, mais elles sont un peu restreintes par les réglementations gouvernementales et du Collège des médecins pour bien cadrer les risques, OK? Alors là, moi, je t'entends dire que chez vous, les sages-femmes, c'est pas vraiment comme ça qu'ils sont formés. Et là, je me demande, mais c'est quoi la différence entre une sage-femme et un gynéco de bord? Parce que, voilà.
Bah, c'est justement tout là le problème. Tu pointes bien du doigt. OK. On a 5 ans, enfin, les sages-femmes ont 5 ans d'études médicales en passant par la première année de médecine. Elles sont formées par des médecins. Elles sont formées par quelques sages-femmes qui sont enseignantes ou des sages-femmes de l'hôpital. Mais tu verras rarement une sage-femme libérale qui va pouvoir transmettre... parce que nous, en France, les sages-femmes peuvent être, du coup, avoir leur cabinet en ville, voilà. Et il y a rarement des sages-femmes qui viennent comme ça nous transmettre vraiment l'expérience du terrain. On parle pas du tout de l'accouchement à la maison, on parle pas de l'accouchement dans l'eau, parce que c'est dangereux, parce que c'est tabou, parce que c'est des sorcières qui font ça. Voilà, en France, on est très, très traditionnaliste. Tu vois, c'est un technicien à fond. Et je crois, j'avais cru entendre que les sages-femmes françaises sont les plus techniciennes, les plus formées à la pathologie. Alors, c'est super. Elles peuvent dépister la pathologie très bien, tu vois, comme un médecin, et puis dire, bon, au médecin, voilà, maintenant, je fais le relais, c'est vous qui gérez la pathologie. Quoi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà gérer en France en tant que sage-femme. Mais moi, justement, c'est cette partie-là qui me gênait de me dire, mais en fait, à quel moment on apprend la physiologie et ce vrai métier de sage-femme et d'accompagnante, parce que pour moi, j'avais mon petit rêve de la... Tu vois, d'aller à une naissance avec ma petite mallette en cuir, là, à pied, et puis de me dire, voilà, bah, comme un médecin de campagne, je vais juste être présente là, et puis être témoin de ce mystère de la vie, de la femme qui enfante, et puis c'est tout. C'est magique, et c'est pas du tout ce que j'ai vu, tu vois, le premier enfantement que j'ai vu, accouchement que j'ai vu à l'hôpital, puisque la femme est couchée, justement, c'était... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant « Mais j'ai fait ces études pour rien, je me suis trompée, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Avec une épisio, une femme à 1 mètre du sol, les néons dans les yeux, tout le monde en stress dans la pièce. » Je me disais « Mais c'est tellement froid, tellement médical, il n'y a rien de naturel. » Et j'ai pas appris, en fait, ma vision, où j'imagine la femme dans un espace chez elle, et avec des petites lumières, dans le calme, tu vois, et où bébé naît, et waouh, le temps s'arrête, tu vois, personne ne se précipite sur bébé, on laisse le temps faire, quoi. Enfin, l'espace-temps n'existe plus, justement, dans ce moment-là, mais il y a une magie qui est là, il y a du sacré, et ça, je ne l'ai pas du tout trouvé, et je me disais, mais c'est quoi ça? Enfin, moi, c'est violent, je voudrais pas enfanter comme ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'être témoin passif de ça, en fait.
Oui.
Et j'ai voulu arrêter 1000 fois mes études et j'ai tenu en me disant, ben justement, avec ce diplôme, peut-être je pourrais faire différemment et amener ma petite pierre à l'édifice.
Changer les choses un peu.
Voilà. Mais tu vois, et c'est dans d'autres pays, plus la Belgique par exemple, où les sages-femmes sont beaucoup plus formées à ça. C'est pas tabou de parler de naissance dans l'eau, de parler d'hypnose, de sophrologie, enfin de plein d'approches alternatives pour soutenir ce cheminement de la grossesse. Et en France, on rame quand même, quoi. Alors, il y a aussi de l'hypnose, de la sophro, du yoga, enfin, tu vois, ça rentre quand même, mais il faut quand même aller chercher les infos, je trouve.
Ouais. Non, ouais, non, j'ai... OK!
Voilà.
Ouais, je comprends. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu disais. Tu sais, j'en ai vécu des accouchements, comme tu dis, complètement magiques, là. Tu sais que t'es dans un espace sacré, t'as rien à faire, tu sais, t'es vraiment... C'est ça, j'ai le goût de dire deux choses en même temps. Puis tu sais, après ça, quand tu vas dans un accouchement plus médicalisé, t'es comme... Moi, je me rappelle qu'à chaque fois que j'ai eu des accouchements qui étaient complètement magiques, quand la femme est en plein pouvoir et en pleine possession de ses moyens, je me disais, c'est ça un accouchement. C'est tellement simple et c'est tellement facile. Et moi, c'est pour ça que j'ai aucune peur face à l'accouchement. T'sais, j'ai tellement confiance au corps de la femme, je l'ai vu faire plein de fois. Et quand une femme m'appelle, je leur dis, moi, quand tu me dis, OK, j'ai des contractions, je pense que le bébé s'en vient, je suis autant stressée que si tu me disais, OK, là, je pense que mes menstruations commencent. c'est comme... Ton corps va faire ce qu'il y a à faire. Moi, je vais m'occuper que l'espace environnemental extérieur soit au maximum avantageux pour tes besoins physiologiques. On a fait un travail, un cheminement intérieur en prénatal. Donc, j'estime que tu as tous les moyens nécessaires pour enfanter. Et bon, ça t'arrange, quoi. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas ce qu'on voit la plupart du temps. Puis ça peut être difficile, effectivement, en tant que personne. Mais d'un autre côté, comme on disait tantôt, ben, tu sais, on accouche comme on est. Tu sais, par rapport au cheminement où on est rendu dans notre vie. Puis si la maman est plus anxieuse que le contraire d'accoucher à la maison, ben, c'est pas le bon choix pour elle, tu sais. Fait que.
C'est ça. Et puis on disait même par rapport au mode de vie, si on se soigne avec beaucoup de médicaments, qu'on va manger beaucoup industriel et tout ça, ben en général, on va plutôt accoucher à l'hôpital parce que c'est ça qui va nous mettre en sécurité. Puis quelqu'un qui a remis en question sa façon de se soigner, sa façon de mettre les enfants à l'école, enfin voilà, gros guillemets, d'accompagner ses enfants, etc. Ben, souvent, l'accouchement à la maison va avec ça, en tout cas l'accouchement naturel. Et, selon où on en est dans nos phases de vie, de développement personnel, ça va s'adapter à ça. Et je voulais ajouter, par rapport à ce que tu as dit, j'ai pu observer mon comportement et ma posture, même physique, qui a changé. Et puis il y a le gynéco en face qui est debout et on est tout le temps debout. D'ailleurs, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, jamais on avait le droit de s'asseoir. Et on est toujours au-dessus de la femme. Et à la maison, et ben, je me suis rendu compte que c'était toujours assise par terre et toujours plus bas que la femme. Et après, et puis bon, jamais devant la vulve, évidemment, enfin, pas en mode comme à l'hôpital, hein, elle accouche dans la position qu'elle veut, etc. Pas toucher le bébé, tout ça, mais tu vois, je me disais, voilà, je suis par terre et presque j'ai envie de me mettre vraiment bas. Vraiment, je suis au service et c'est elle qui prend la place, c'est elle la reine, c'est elle l'actrice principale de la naissance. C'est pas le professionnel là, qui est debout. Et je trouve ça fou. Et après la naissance, ben, je me sens encore plus petite. Tu vois, de cette puissance que la femme rayonne, je suis là genre, waouh! Et puis d'un coup, je sais plus rien, quoi. C'est plus du tout moi qui a plus d'informations, c'est elle qui a vécu ce processus, c'est elle qui va m'apprendre, qui va me raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a compris. Et je suis là, genre, juste, waouh, quoi, j'ai juste envie de me mettre à ses pieds. Et tu vois, c'est cette posture-là qu'on n'a pas à l'hôpital. Parce que il n'y a pas les conditions pour ça.
Oui. Mais tu sais, il y a aussi le... dans un accompagnement qui est plus holistique, tu sais, quand on arrive à se connecter avec justement le, tu sais, le spirituel, que je pourrais dire, ou le mystique, on réalise à un certain stade que, oh, moi aussi, là, les femmes que j'accompagne, à un moment donné, je dis genre, waouh, là, tu sais, tranquillement, tu te rapproches du divin, là. Tu es en train de donner naissance et là, il y a une énergie qui demande le respect. Puis, effectivement, tu sais, pour ajouter à ce que tu disais, pour les femmes qui nous écoutent, tu sais, obstétrique, le terme obstétrique, ça veut dire celui qui se tient debout devant la femme qui accouche. Donc, effectivement, c'est juste pour dire à quel point c'est la base de tout ce qui est actuellement, tu sais, c'est la vision de base, tu sais, c'est le terme carrément qu'on utilise pour le définir, tu sais.
C'est ça, c'est assez incroyable d'aller voir l'étymologie des mots et de voir on emploie des mots sans vraiment connaître le sens et on entretient cette énergie, ces croyances-là, ce paradigme de la naissance et de, voilà, bon, ça fait partie de tout le chemin de la femme, de se réapproprier son pouvoir et puis de se retrouver dans des droits égaux entre hommes et femmes, quoi. Et,
oui.
Et je dis vraiment les droits dans le sens où c'est pas, je vois pas forcément l'homme est l'égal de la femme, puisque dans nos énergies, on est différent, on fonctionne différemment et on est complémentaires, justement. Mais en droit, dans l'écoute des besoins, on est censé être au même niveau, quoi. Il n'y en a pas un qui mérite plus le respect qu'un autre.
Exactement. Donc, l'objectif, c'est pas d'être l'égal à l'homme ou d'avoir les mêmes choses que l'homme, c'est de juste recevoir ce qui nous est dû dans la femme qu'on est. Il y a vraiment une bonne distinction à ce niveau-là, encore plus évidemment en maternité. Oh my God! Merci! Quelle discussion intéressante et pleine de passion. vous avez pu voir qu'on se comprend pas mal. Merci Alexandra de m'avoir expliqué ton parcours, ta vision, ton cheminement.
Merci à toi.
Je vais mettre le lien vers ton Instagram dans la description. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'Alexandra fait. Et sinon, on se retrouve pour un prochain podcast la semaine prochaine. Bisous!
Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager l'épisode de podcast, si tu l'as aimé, pour encourager la transmission de savoir de femme à femme.